voir plusieurs passages, plusieurs textes. Mais ce que j'aimerais que l'on retienne se trouve dans un seul verset de la Bible. Un seul. Ce ne sera même pas un verset tout en entier sur lequel nous garderons notre attention, mais c'est sur la fin de ce verset. Il se trouve dans un livre de Moïse, c'est-à-dire le cinquième, le livre du Deutéronome. Moïse a rédigé, inspiré par Dieu, les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et au chapitre 30, je lis avec vous le verset 19. Deutéronome, chapitre 30 et verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin pour vous et contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Je retiens simplement la fin du verset 19. En notant que Moïse dit « Je prends aujourd'hui, choisis la vie afin que tu vives. » Et j'aimerais vous dire, cet après-midi, c'est plus le moment d'attendre, choisis la vie. Choisissez la vie. En matière de choix, rien n'est pire, je pense, que de ne pas choisir. Non ? Vous hésitez entre deux, lequel je prends ? Alors, comme on n'est pas riche, on ne peut pas prendre les deux. Donc, on choisit. Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ? Mais les deux nous intéressent. J'hésite entre une Ferrari ou une Lamborghini, j'hésite. Je ne sais pas laquelle prendre. Les deux me plaisent. Je parle des majorettes, hein. Vous savez, les petites voitures. Laquelle je vais prendre ? Et j'en prends une, et puis on est content, mais on dit « Ah, mais l'autre, elle était bien quand même. » C'est terrible que, finalement, de ne pas choisir en disant « Oh, je préfère pas choisir. » Oui, mais à qui t'as pas choisi, on n'a rien. Vaut mieux choisir quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est bien pire encore. Si ne pas choisir, c'est pas bien, je crains que ce soit bien pire encore que de mal choisir. Vous imaginez ? Vous choisissez, ça y est, j'ai fait mon choix, je prends ceci et manque de chance, c'est le mauvais choix. Ah là là, là vous allez le regretter, hein ? Seulement c'est fait. Il n'y avait qu'un choix possible, il n'y avait qu'une possibilité. Ça ne suffit pas de dire « Non, en fait, j'ai changé d'avis. » Ça ne marche pas avec Dieu, ça ne marche pas. Si tu choisis la vie, tu vis. Si tu choisis la mort, tu meurs. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire « Zut, je suis mort, je reviens. » Les colos se sont arrêtés et nous avions un neveu qui était à la colo. Et vous savez que quand ils sont adolescents, on leur fait faire plein d'activités pour les dépenser, les occuper, et il y a des activités sportives, rafting, bouée tractée, acrobranche, puis il y a des activités plus, qui les fait un peu plus bouger, qui les amusent quelquefois, bien davantage, on appelle ça un bowling ou un laser quest. Laser quest, c'est deux camps qui se font front et il y a les gentils, les méchants, et puis vous êtes équipés avec des lasers, etc. Et il faut éliminer les adversaires. Et maintenant, ça se fait même en plein jour. Avant, ça se faisait dans des endroits clos, bien fermés dans la nuit. Et donc, il y avait des lumières qui brillaient. Là, c'est en plein jour. Et donc, mon neveu m'expliquait qu'ils ont fait un laser quest géant, ils se sont éclatés. Et lui, il aime les jeux vidéo de ce style-là. Donc, il était tout heureux et il m'expliquait qu'il y avait plusieurs armes possibles. Soit vous étiez un soldat classique, soit un sniper, etc. Enfin, il fallait recharger, enfin bref. Et je lui dis, mais le sniper, bon, c'est pas des jeux super, hein, mais bon, c'est des jeux d'ado. Et donc, je lui dis, mais le sniper, il reste dans un coin, il fait rien alors. Et il dit « Ah non, moi j'aime bien aller au combat, j'aime bien aller à la bataille. Et puis bon, on n'a trop rien à craindre parce qu'on a 100 vies. Ben, » c'est sûr qu'avant de se faire tuer 100 fois, il peut finir la partie, pas de problème. Hein. Bon, mais ça c'est dans la vie irréelle. Parce que dans la vie réelle, on n'a qu'une vie. Hein. Et celui qui dit « Moi j'ai choisi la mort, mais c'est pas grave, j'ai 100 vies. » Déjà, vous n'êtes même pas un chat, il n'y en a même pas 7. Mais il n'y en a qu'une, vous n'en avez qu'une. Alors ce serait quand même terrible que de se dire, bon, mais j'ai fait le choix j'ai fait le mauvais choix, eh bien tant pis, on verra si après la mort, il y a encore une autre vie, si on revient sur la terre, un genre de réincarnation, ben j'essaierai de faire mieux. C'est pas évident que vous vous souveniez en quel état vous étiez avant, déjà, parce qu'on dit qu'en général, vous revenez pire, mais on ne sait pas trop comment. Tous ceux qui vous élaborent ces théories pensent qu'ils étaient avant. Eux, ils voient toujours devant et que ce sera peut-être meilleur, sinon pire. Mais bref, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'on n'a qu'une vie. C'est pour ça que Dieu dit aujourd'hui, là maintenant, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de se dire « je ne sais pas bien choisir, je ne sais pas trop comment faire ». C'est simple avec Dieu. Tu choisis la vie, tu vis. Tu choisis la mort, tu meurs. C'est exactement ça. Tu choisis la vie, tu vis. Tu choisis la mort, tu meurs. Alors Dieu ne place pas devant l'homme, et ça c'est important, pour choisir, pour vous aider à choisir, il n'a pas placé devant vous des religions. Parce qu'on pourrait se dire, au supermarché des religions, je ne sais pas laquelle je dois prendre. Non, non. Il a juste placé la vie et la mort. Et ça, on y est tous confrontés. Parce que certains vous diront, oui, mais vous, c'est votre religion. Moi, j'ai pas grandi là, j'ai pas vécu là, j'ai pas eu l'occasion d'entendre ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant. J'ai été marqué, etc. Mais devant la vie et la mort, on y est tous. Hein. C'est pas une question de religion. On y est tous devant la vie et devant la mort. Ça, c'est une réalité. Alors, le conseil de Dieu, finalement, est très clair. Il faut choisir. Et j'ai l'impression que choisir devient urgent. Ça devient vraiment urgent. Il faut que vous choisissiez aujourd'hui. Certains prennent du temps. Moi, j'ai besoin de réflexion. Je trouve ça surprenant comme remarque, parce qu'en général, on ne prend pas forcément du temps pour tout. Hein. Vous imaginez, vous promenez dans la rue, et puis c'est un jour de bonnes nouvelles. Vous avez un riche qui a envie de faire du bien en descendant dans la rue, donc il a ouvert son coffre, sa mallette, et toutes les personnes qui arrivent, il leur dit, allez-y, prenez ce que vous voulez. Il y a des euros, il y a des diamants, il y a de l'or, prenez ce que vous voulez. Et vous imaginez, vous arrivez devant, ouais, attends, je réfléchis. Et pendant ce temps-là, les autres se servent. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas très décidé là maintenant, je ressens rien. Mais quand vous allez vous décider, il n'y a plus rien. Hein. Parce que les autres, ils ne vont pas attendre 10 ans. Choisir la vie, choisir la mort et se dire, ben, j'hésite, je ne suis pas encore bien sûr, il faut que je prenne mon temps. C'est aussi ridicule que ça, quoi. C'est exactement la même chose, ça rime à rien. À des moments, on n'a pas le temps de prendre du temps pour choisir. Il faut se décider rapidement. C'est comme si quelqu'un se trouvait, dans une maison en feu et il hésite à sortir. Ou alors, on voit cela malheureusement, et il y a quelqu'un qui a échappé, on a montré des images d'informations à la télévision, quelqu'un a échappé à la mort grâce à la présence d'esprit d'un policier avec sa voiture, je crois que c'était aux États-Unis. Il s'est engagé sur un passage à niveau et la voiture restait bloquée, et il était dedans, il savait plus trop, il a essayé de sortir, il est tombé, et il y a quelqu'un qui arrive, qui a la présence d'esprit de le prendre et de l'arracher avant que le train n'arrive et percute la voiture, etc. Il n'était pas temps de réfléchir, quoi. Il fallait faire immédiatement quelque chose et il l'a fait. Choisir la vie, c'est aussi urgent que ça. La maison est en feu, vous allez au clash, à la collision. Le navire est en train de couler, il faut vite mettre le gilet de sauvetage, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester dans cette situation-là. J'aime beaucoup cette parole que l'on trouve dans un psaume, c'est le psaume 119. Cet homme a écrit ceci, je vous le cite. Au verset 30, je choisis la voie de la vérité. Amen, ça c'est un bon choix. Je choisis la voie de la vérité. Et un peu plus loin, il continue dans sa logique et il dit, en parlant à Dieu, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Cet homme a choisi la vérité. Parce qu'en même temps, la révélation de Dieu l'a éclairé et il a compris où était la vérité. Et à cause de cela, il a pu choisir. Aujourd'hui, souvenons-nous que les nouvelles ne sont pas bonnes. Il suffit de regarder autour de soi. Et il me semble que quand les nouvelles ne sont pas bonnes, si on a une possibilité qui se présente là immédiatement de sortir d'une situation inextricable, alors il faut foncer tout de suite. Vous avez un homme à qui c'est arrivé dans le Nouveau Testament, et cet homme s'appelle Pierre. Cet homme, les jours de Pierre sont comptés. On va dire que les nouvelles ne sont franchement pas bonnes. Il a été arrêté, et il n'est pas le seul d'ailleurs, quelqu'un d'autre a été arrêté avant lui. Il a été jeté en prison, et à ce moment-là, un certain roi, un certain Hérode, qui respirait le pouvoir malsain, la menace, aucune sensibilité. Il prenait plaisir à faire mourir les esclaves, déchirés par des bêtes féroces, ou alors il y avait des combats de gladiateurs à mort, enfin c'était abominable, abominable. Il a décidé de faire pareil avec des chrétiens, qui par définition n'étaient pas très soldats, n'étaient pas très guerriers, et beaucoup ont été arrêtés dès les premiers temps du christianisme, et deux d'entre eux, donc Jacques notamment, et ensuite Pierre. Et puis on a amené Jacques au peloton d'exécution et on lui a coupé la tête. Tout le monde a hurlé de plaisir dans l'arène, formidable, parce que ben voilà, c'était les jeux du cirque, quoi, abominable. Et puis Pierre sait que ses jours sont comptés, parce que dans quelques jours, ça va être son tour. Il va devoir certainement être jugé et être condamné. L'empereur va lever le pouce, baisser le pouce. Il y a des fortes chances qu'il le baisse et que ce soit la mort qui soit au bout pour Pierre. Mais juste la veille, il s'endort, il est en prison, comme d'habitude. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, parce qu'il est en train de vivre ses dernières heures. Je me suis toujours étonné de ce que l'on fait pour les condamner à mort. Ça arrive encore aujourd'hui dans certains pays où le dernier soir, on leur offre un super repas. Je ne sais pas si j'aurais envie de manger, moi. Savoir que le lendemain, je suis électrocuté ou une injection létale, tué comme ça, ou aller savoir. On donne au condamné ce qu'il veut. Alors il peut fumer une cigarette et puis un très bon repas, même du champagne. Il vit ses dernières heures. Alors évidemment, perdu pour perdu, ben, certains se disent un dernier repas, une dernière cigarette, un dernier ceci, un dernier cela. Mais c'est terrible, quoi. C'est macabre, c'est abominable. Pierre, lui, à cette époque-là, il n'y avait pas de champagne, hein, il n'y avait rien du tout. Sauf qu'il savait qu'il allait être exécuté. Eh bien, comme les autres fois, il est entouré de soldats, il est attaché avec des chaînes qui sont reliées au mur, reliées aux gardiens, il y a plusieurs portes, il est bien enfermé dans sa prison, il risque pas de s'en aller. Sauf que il dort, puisque c'est la nuit, et pendant la nuit, il n'a pas une vision, il n'a pas un rêve, mais il se passe quelque chose de surnaturel. Alors qu'on est plongé dans la nuit, un ange apparaît dans la prison. C'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Un ange apparaît dans la prison et le texte dit, écoutez bien, ceci, une lumière brilla dans la prison, l'ange réveilla Pierre en frappant au côté, en le frappant au côté et en disant, c'est ça qui m'intéressait, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Au moment où il se lève, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Et en suivant l'ange, toutes les portes, les différentes portes vont s'ouvrir et il va se retrouver libre dehors. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est plusieurs choses. La première, c'est que si vous étiez dans la dernière ligne droite et que vous sachiez que demain, c'est la fin. Comment est-ce que vous vivriez ces dernières heures? Difficile de répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que l'on dorme paisiblement, profondément, j'en suis pas bien sûr. Le fait est que pour Pierre, il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de résignation, il n'y a pas d'agitation, il dort. Saint chrétien, après tout, il a confiance en Dieu, qu'il meure ou qu'il vive, il reste attaché à Dieu, quoi qu'il advienne. Quand l'ange le réveille, il nous est dit que simultanément, il y a une grande lumière qui jaillit. Je reste persuadé que quand Dieu s'approche de nos vies, la lumière jaillit. La lumière jaillit. On peut dire « Eureka, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé ce qui me manquait, j'ai trouvé ce que je n'avais pas ». non seulement la lumière jaillit, dès qu'il se lève, les chaînes tombent. C'est-à-dire qu'elles étaient bien fermées, et d'un coup elles sont ouvertes, et ça tombe. Et la Bible dit que toutes les portes vont s'ouvrir. Tous les ennemis de Pierre sont neutralisés. Tous neutralisés. Lorsque Dieu intervient dans nos vies, lorsque Dieu intervient dans votre vie, alors il faut réagir promptement. Il faut se lever promptement. Imaginez Pierre, quand l'ange lui dit « Lève-toi promptement !» Et Pierre dit « Non, j'ai pas bu mon café, je ne peux pas me lever. » Non, je ne suis pas bien réveillé, attends 5 minutes. C'est pas possible. C'est maintenant, là, lève-toi promptement. Quelquefois, on n'a peut-être pas l'impression que les nouvelles sont si mauvaises que cela. On dit « Oh, ça va s'arranger. Oui, j'espère que ça va s'arranger. » « Oh, je me fais pas trop de bile quand même. » Et puis après tout, chacun son lot, c'est la vie. Hein. Mais je pense que ça va s'arranger. Pierre, lui, sait que ça va pas s'arranger. S'il reste là, demain, il est mort. Il est mort, il est tué, il y a de fortes chances. Il s'est donné peut-être 1% de chance de survivre, et encore. Lui, il sait qu'il va mourir. Alors, lorsque Dieu intervient, ben, il faut se bouger et il faut réagir immédiatement. Ça fait longtemps que Dieu frappe à la porte de ton cœur et tu ne t'es pas levé encore. Tu attends quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il frappe un peu plus? Qu'il vous envoie une lettre sous la porte? Qu'il vous envoie un SMS? Un cadeau de plus? La vie, jusqu'à ce jour, vous êtes vivant, c'est un cadeau. Mais maintenant, il faut se lever pour voir les chaînes tomber, les ennemis neutralisés. Il faut écouter cette voix de Dieu. « Je choisis la voie de la vérité ». Disait le psalmiste, et pour vous, vous savez que la voie de la vérité, elle nous rapproche de Dieu, bien évidemment. Je crois que c'est plus le moment de trop réfléchir. Si c'est bien, est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai raison? Il aurait pu se demander, mais est-ce que c'est un vrai ange? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'il revienne encore dans un moment? Non, il a bougé tout de suite, parce qu'il fallait faire quelque chose tout de suite. Il s'est levé promptement. Dans un autre évangile, l'évangile de Luc, c'est le même auteur d'ailleurs, il nous est dit au chapitre 18 qu'à son époque déjà, il constatait que l'injustice grandissait. Je pense que l'on peut tous dire qu'aujourd'hui l'injustice grandit de plus en plus. Dans un monde où ne règne pas la justice, loin s'en faut, la vérité, on ne sait pas à quelle sauce il faut l'avaler ou... et se la faire servir, c'est difficile d'être entendu, et on a vraiment l'impression que le monde est coupé en deux. En fait, il y a les autres et vous. Le monde est coupé en deux. Les autres ne vous comprennent pas, les autres ne vivent pas ce que vous vivez, les autres n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas les mêmes problèmes, etc. Donc, les autres et vous. Et vous êtes tout seul. Il faut se débattre, il faut essayer de trouver la solution, et c'est difficile. La Bible dit que dans une certaine ville, il y avait un juge, méchant juge. Ce n'est pas le rôle d'un juge que de ne pas juger justement, mais lui, manifestement, c'était un juge totalement injuste. Non seulement il ne craignait pas Dieu, et il n'avait d'égard pour personne. Donc, avec lui, il n'y a pas de favoritisme. Non, j'ai l'impression qu'il se sert d'abord lui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Dieu peut intervenir là, maintenant, promptement. Il peut vous faire justice là, en une fraction de seconde. Par contre, ce qui est en jeu, c'est de répondre à cette question, est-ce que vous avez confiance en lui? Trouvera-t-il la foi quand il viendra sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en Dieu pour lui confier votre vie? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en Dieu pour croire qu'il dit la vérité? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en Dieu pour ne pas chercher à mettre en œuvre vos idées, vos plans, à tout arrêter pour dire « dis-moi ce que je dois faire ». Est-ce que ça c'est lui faire confiance? Est-ce que vous êtes capable d'aller jusque-là? Si vous n'êtes pas capable d'aller jusque-là, vous n'êtes pas prêt de voir la justice de Dieu se manifester dans votre vie. Parce que Dieu répond à la prière sincère, à la prière du cœur. Et c'est exactement ce que Jésus met en avant dans cette parabole. Cette veuve, elle voulait justice, cet homme se moque d'elle, eh bien elle va l'enquiquiner. Le matin, il a l'habitude d'aller prendre son café au bar, elle y va. Après, il va faire un tennis, elle y va. Après, il rentre chez lui, elle reste en dessous de sa maison, et elle fait une grève de la faim. Et après, il s'en va au bureau, elle le suit, elle crie dans la rue, « Fais-moi justice, fais-moi justice !» Et le soir, elle lui téléphone, harcèlement. Elle veut obtenir justice. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt de faire pour obtenir ce que l'on veut quelquefois? On est prêt à faire beaucoup, hein. Se lever tôt, se coucher tard, voire même pas dormir, pendant 48 heures s'il le faut, pour arriver à ses fins. Il me semble que cette femme est un bon exemple de la manière dont il faut espérer et de la manière dont il faut croire. Cette femme mérite justice, elle n'est pas entendue, elle ne méritait pas tant de malheur, mais qui va plaider sa cause puisque le juge n'en veut pas? Elle se retrouve toute seule. Eh bien, Dieu l'a entendue. La Bible dit que Dieu fait miséricorde à qui le cherche, à qui crie à lui. Dieu fait miséricorde. Cet après-midi, quel que soit votre besoin, je crois que Dieu peut vous faire votre miséricorde et c'est ce qui fera la différence, c'est la confiance que vous allez placer en Dieu. Et puis toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, et on va terminer avec ce récit, il est question d'une histoire que Jésus va raconter encore. C'est l'histoire d'un homme qui un jour a organisé une grande fête. Il a décidé d'organiser une super soirée. Alors à cette soirée, il a mis tout ce qu'il fallait, il a mis l'argent qu'il fallait, commandé le meilleur traiteur, il a demandé au meilleur décorateur de décorer la salle, il s'est même arrangé les services des meilleurs animateurs, bref, il fallait que ce soit une soirée réussie. Et puis, une fois que tout a été mis en place, il a envoyé ses cartons d'invitation. Et bizarrement, aucun de ceux qui n'étaient invités ne sont venus. Aucun. L'un va dire « Je suis occupé à ceci, excuse-moi ». Un autre va dire « Ça tombe mal, je suis déjà pris ailleurs, excuse-moi ». Quelqu'un d'autre encore va lui dire « Écoute, je pars en voyage, je viens de me marier, ça m'est pas possible, etc. Excuse-moi, 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 excuse-moi ». Il a été dans une rage, vous imaginez, si ça vous arrivait, dans une rage, dans une colère. Il en a voulu à ces gens-là, mais tout ce qu'il a fait, il l'a pas mis à la poubelle. Hein. Il l'a pas mis à la poubelle. Dieu n'est pas un Dieu qui se met facilement en colère, à la fois sans raison, et qui ne se maîtriserait pas. Non, il a eu une autre idée. Et dans le fond, il s'est tourné vers ses serviteurs, et il dira ceci, va promptement, allez dépêche-toi maintenant, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur est parti, il a récupéré tout ce qu'il pouvait trouver en bas des immeubles, dans les jardins publics, etc. Bref, il a récupéré tous ceux qui n'avaient rien à faire, qui étaient misérables, et il les a amenés. Ça devait faire drôlement coloré à l'intérieur. Il les a tous amenés là. Ça devait sentir bon, hein. Tous étaient là. Et quand le maître rentre, il demande au serviteur, « Alors, écoute, ça a été fait, mais il y a encore de la place. Eh bien, retourne !»« Retourne. Je veux que la salle soit pleine. Je veux que tout le monde ait la possibilité d'être là. » J'aime beaucoup ce passage, parce que en fait, quand on comprend que les jours sont mauvais, les nouvelles ne sont pas bonnes, l'injustice grandit, donc on se dit, je sens que ça va mal se terminer, je ne vais pas m'en sortir. Moi, je vous dis que la solution est là. Je ne vous dis pas simplement que la solution existe, parce que ça voudrait dire qu'elle existe, oui, mais où et quand? Non, je vous dis qu'elle est là, la solution. Elle est là. Elle est là. Vous pensiez que Dieu ne s'occupait pas de vous? Vous ne saviez pas? que Dieu avait des projets pour vous, il avait déjà tout préparé, il avait déjà installé la table, vous ne le saviez pas. Dieu n'attend que vous pour ce fameux tête-à-tête. Il a dressé la table et il veut souper avec vous, il veut prendre un peu de temps avec vous, il veut discuter avec vous. Vous ne le saviez pas, c'est déjà prêt. Dans ce texte, il y a une phrase qui est certainement la plus importante. Il est dit « il y a encore de la place ». Cet après-midi, pour vous, il y a encore de la place dans les projets de Dieu. Il y a encore de la place dans le cœur de Dieu. Et pourquoi c'est aussi important? Deuxième phrase clé dans ce texte, tout est prêt. Tout est prêt. Les conviés n'en étaient pas dignes. Mais ce n'est pas grave, on en a trouvé d'autres. Ne regardez pas autour de vous, est-ce que d'autres ont accepté, est-ce que d'autres accepteront, qu'est-ce que les autres diront, est-ce qu'ils me suivront, est-ce qu'ils seront d'accord avec moi? C'est ta vie que tu joues. C'est ta mort qui est en jeu. C'est ton éternité. C'est votre éternité qui se joue maintenant. Choisis la vie. Si tu choisis la vie, tu vis. Si tu choisis la mort, tu meurs. C'est exactement dans ces situations que l'on retrouve la fidélité de Dieu. L'appel au salut est quelque chose d'insistant. L'invitation a été lancée depuis longtemps. L'appel au salut, c'est quelque chose qui est urgent. J'insiste, c'est votre avenir qui est en jeu, c'est votre éternité qui se profile et c'est votre sécurité qui se joue maintenant, votre sécurité. En parallèle à ce « tout est prêt », il y a un autre « tout » quand Jésus meurt à la croix. Quand Jésus donne sa vie juste avant de mourir, il dit « tout est accompli ». Tout est prêt, tout est accompli, c'est la même chose, c'est le même message. Cet après-midi, vous pouvez trouver en Dieu la solution à vos difficultés, mais c'est maintenant qu'il faut choisir. C'est plus le temps de dire « j'hésite, je ne sais pas si je dois le faire ». J'ai placé devant toi la vie et la mort. C'est ce que Dieu te dit. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vis. Si tu choisis la mort, tu meurs. Cet après-midi, vous avez la possibilité d'être sauvé. Est-ce que vous le voulez? Vous avez la possibilité d'être racheté. Est-ce que vous le voulez? Il n'y en a pas un qui me répond, là? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous voulez être béni? Est-ce que vous voulez la grâce de Dieu? Alors il faut aller la prendre maintenant. Il faut aller la chercher. Il ne faut pas attendre que ça tombe comme ça. Il faut aller la chercher. Il faut demander à Dieu de l'aide. Il faut crier à lui maintenant. Et Dieu va intervenir. Dieu va se manifester parce qu'il est bon et parce qu'il vous aime. On va s'incliner pendant quelques instants. On va prier et on va lui demander grâce. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Priez avec moi, on demande à Dieu sa grâce, on demande à Dieu son secours maintenant. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous réclamons ta grâce. Nous venons devant toi parce que nul n'est comme toi. Nous venons devant toi parce que nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de te connaître, nous avons besoin de toucher le bord de ton vêtement. Et nous te remercions pour ta fidélité. Je te prie d'étendre ta main, je te prie de te glorifier maintenant. Je te prie de sauver celui qui est dans la détresse. Sauve celui qui est malheureux. Sauve celui qui n'en peut plus. Sauve celui qui est dans une profonde détresse. Et glorifie-toi maintenant. Au nom de Jésus, glorifie-toi maintenant. Nous te remercions pour ce que tu feras. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te remercions pour ta fidélité. Sois loué, Seigneur, que ton nom soit béni. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons que tu es là. La solution, elle est là. La solution, elle est maintenant, alors que celui qui est dans l'inquiétude de son lendemain, que celui qui ne connaît pas son avenir, puisse maintenant crier à toi, se lever promptement pour dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Se lever promptement au-dedans de son âme pour dire « Écoute-moi, entends ma prière ». Je crois que tu vas l'exaucer, je crois que tu vas le bénir maintenant. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen.